France Musique. Les grands entretiens, Rodolphe Bruno Boulmier. France Musique.
Je m'appelle Claude Delangle, saxophoniste. Je suis né le 4 juin 1957 à Lyon.
Claude Delangle, nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Radio France. Souvent, ces grands entretiens se déroulent chez le musicien, mais ici, avec la crise sanitaire, vous nous avez fait le plaisir de venir jusqu'à Radio France. Vous allez vous livrer au cours de ces grands entretiens sur votre histoire, sur votre parcours, sur l'histoire aussi du saxophone. Mais commençons par le début. Est-ce que vous êtes né dans une famille de musiciens et quels sont vos premiers souvenirs ?
Je ne suis pas né dans une famille de musiciens, mais dans une famille musicale, on va dire, puisque j'ai un grand-père qui était chef de musique dans son village, et quoique je ne l'ai pas vu ni jouer, ni enseigner, ni diriger, mais mon père est un mélomane qui était abonné à l'Opéra de Lyon. On allait écouter l'orchestre de Lyon, on avait des disques, on était abonné par exemple à la série des grands musiciens. Donc, évidemment, les grands classiques. Moi, j'ai dirigé la Philharmonie de Berlin dans le salon de mes parents, plutôt dans la chambre de mes parents. La chaîne était dans leur chambre. Donc, j'ai dirigé la Philharmonie de Berlin avec, évidemment, la Moldau, la Symphonie du Nouveau Monde et la 9e de Beethoven.
Et que faisaient vos parents ?
Mon père était charcutier traiteur à Lyon. Et mon père est quelqu'un qui est dans son métier. Probablement, ça m'a beaucoup influencé. Il était un meilleur ouvrier de France, donc avec un niveau des Bocuse, et enseigné une dizaine d'années au Japon, et donné ses recettes à Japan Airlines et à Kinokuniya, à Ginza, vous voyez, c'est d'où l'attrait pour le Japon par la suite, pour ce qui me concerne.
Et votre mère ?
Ma mère l'aidait, et ma mère était peut-être, tout en étant aujourd'hui encore abonnée à l'orchestre, à l'auditorium Maurice Ravel, ne nous a pas particulièrement poussé. Ce qui a été l'élément déclencheur pour nous, c'est, je dis nous parce que j'ai deux sœurs plus jeunes qui ont également fait de la musique, qui sont des très bonnes musiciennes amateurs aujourd'hui. On a été complètement pris sous la coupe de la réforme de Malraux, c'est-à-dire qu'on envoyait dans les écoles primaires des intervenants musiciens qui faisaient faire un peu de chant chorale, on en faisait, je crois, quelques dictées musicales, et parmi nous, certains de nos parents recevaient une lettre en disant « Votre enfant a une bonne oreille, chante à peu près juste, ce serait pas mal de l'inscrire au conservatoire ». Ça, c'était l'élément déclencheur, et qui, c'était très bon marché d'étudier au conservatoire de Lyon, donc voilà, ça, tout s'est fait facilement.
Et donc, vous allez aller au conservatoire, et comment est-ce que...
On va au conservatoire, et mon père veut que je joue du violon, parce qu'il avait joué du violon étant enfant, et son souhait le plus cher, c'est que je sois violoniste professionnel. Moi, ça m'intéressait pas trop. Je voulais souffler dans quelque chose plutôt, parce que violon, non, c'était pas. Non, je voulais jouer d'un instrument avant. Donc, on a plutôt regardé dans les classes d'instruments avant, et on s'est retrouvé donc à un moment dans une toute petite salle de classe, qui était plutôt un bureau, oui, qu'une salle de cours, où le professeur de l'époque, Serge Bichon, qui est mort récemment, donnait un cours à des grands élèves. Il a interrompu son cours pour jouer quelque chose. Et moi, j'ai trouvé que ça sonnait vraiment bien, ça. Alors vraiment, ça, c'était un instrument. Ça pouvait être doux, ça pouvait être fort. C'était vraiment, vraiment, vraiment sympa comme son, quoi. Vraiment, oh, ça m'est resté. J'ai dit, oui, c'est ça. C'est celui-ci, là. Je vais commencer ça. Voilà. Et puis, alors, il y a cette première découverte. Et puis après, on a payé l'inscription au conservatoire. Et puis, avant d'aller à la première leçon, il a fallu acheter un instrument. Mon père est allé acheter un instrument de musique. Et c'est un étui. Je me souviens très, très bien de la couleur de l'étui, un gris comme ça. Et je me revois ouvrant cet instrument neuf, qui était un Marxis Selmer. J'avais eu beaucoup de chance de commencer avec un instrument comme celui-là. Et j'ouvre l'étui. Et là, l'odeur de la colle, parce que les étuis à l'intérieur, tout est collé, collé de frais certainement. Ce parfum, cet instrument, l'étui était à l'intérieur rouge, un velours rouge, de l'instrument doré, comme ça. Oh, c'était extraordinaire. Et alors, j'ai dû prendre une première leçon, et alors pendant toute la première semaine, ça marchait vraiment pas bien. Vraiment, vraiment pas bien. Et j'ai compris pourquoi. parce qu'en fait, il fallait mettre la main droite en dessous de la main gauche, et surtout le bec avait un sens. Sinon, l'anche ne fonctionnait pas très bien.
Oh, ça c'est sûr.
Plus de 50 ans après, je suis toujours émerveillé par cet instrument, aussi bizarre que ça puisse paraître.
Vous diriez que vous avez eu une enfance heureuse, vous gardez un bon souvenir de cette jeunesse de Lyon à l'époque, qui était une ville assez bourgeoise aussi, non, je pense?
Oui, assez froide, je dirais même. Personnellement, j'étais né là, mes parents étaient sont des personnes très chaleureuses, donc je vivais dans un milieu de meilleurs ouvriers de France, parce que c'était ça, on vivait, mon père recevait des verriers, des gens, des métiers de bouche, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des cuisiniers, des pâtissiers. J'ai rencontré les plus grands pâtissier lyonnais à cette époque-là, cuisinier et autres. Donc, on passait le dimanche à aller sélectionner les meilleurs Beaujolais. Vous voyez, mon enfance était quand même tout à fait chaleureuse et plutôt heureuse. Bien qu'au plan familial, j'ai toujours des bémols, évidemment. Mais pour moi, au plan musical, purement musical, c'était un bonheur d'aller à l'opéra. Et mes premières expériences ont pu être marquantes pour la suite des choses, dans le sens où j'allais à l'opéra avec un homme un tout petit peu plus âgé que moi qui travaillait dans un atelier de mécanique et qui était passionné par l'opéra. Et qui était absolument révolté de l'attitude des musiciens qui lisaient leur journal quand il n'y avait rien à faire, qui papotaient entre eux, entre deux scènes. Et pour lui, la noblesse de la musique et cet émerveillement que provoquait en lui la musique, évidemment, il avait un jugement assez dur à l'égard des musiciens qui étaient pour lui des privilégiés. Et moi, je ne voulais pas être un musicien privilégié. Je sentais déjà naître quand même un sens de la responsabilité. Enfin, quand on est musicien, on est responsable quand même d'émerveiller de A à Z, et pas seulement en soufflant dans son instrument.
Conservatoire, vous entrez donc dans la classe de saxophone, vous commencez par le saxophone alto, sans doute, comme on l'enseigne traditionnellement.
Oui, on joue du saxophone alto et très tôt, comme j'étais grand pour mon âge, j'avais la chance d'être un grand garçon, j'ai joué du baryton dans un quatuor. Et ça, pour moi, ça a été vraiment la musique de chambre, a tout de suite été, il y a deux éléments qui ont été très très forts dans ma formation, c'est d'une part le quatuor de saxophone, mais dès le très jeune âge, à 11 ans ou 12 ans, je jouais dans un quatuor Et très vite, on a enregistré un disque. D'ailleurs, à 14-15 ans, on a enregistré un petit disque 45 tours pour faire la promotion, notre promotion, et surtout gagner un petit peu d'argent pour aller dans un congrès mondial, je sais, Bordeaux, je sais plus où. Et donc, il y avait une vraie activité, un semblant d'activité, un lien avec le monde professionnel. Et l'autre élément, c'était le fait que mon professeur était ami d'un homme dont le petit-fils est très connu, puisqu'il est professeur d'orgue au conservatoire, c'est Michel Bouvard, et son grand-père, Jean Bouvard, était professeur de culture musicale au conservatoire, au lycée du Parc, et écrivait de la musique, était ami de mon professeur, et donc on créait des œuvres. Et ça, pour moi, c'était vraiment extraordinaire. Jouer une œuvre qui n'avait jamais été jouée auparavant, le compositeur remaniant sa partition, changeant des dynamiques, revoyant des phrasés, modifiant en fonction de notre jeu pour simplifier quelque chose, ou au contraire, prendre un petit peu plus de risques. Et je pense que ce sont des éléments fondateurs d'un développement ultérieur.
Et peut-être qu'on peut faire une parenthèse aussi en disant ce que c'était que le saxophone à la fin des années 60. C'était à la fois un instrument qui venait du milieu populaire, des fanfares, de la garde républicaine, et puis le jazz d'un autre côté. Est-ce qu'il avait déjà la stature d'un instrument soliste classique?
Alors, je dirais pas du tout. En tout et pour tout, je n'avais que deux disques de saxophone. Un disque enregistré avec l'orchestre Paul Kuentz et le saxophoniste américain Eugène Rousseau. Et le disque de Marcel Mule, connu en LP, voilà, disque récital. Et c'est vrai qu'envisager une carrière de saxophoniste, on va dire classique, bien que ça ne veuille pas dire grand-chose, c'était totalement inenvisageable. Pour moi, la question du jazz ne se posait pas vraiment, parce que j'avais mes parents n'ayant pas du tout cette culture-là, j'ai entendu très tard du jazz, au moment où je suis rentré au Conservatoire de Paris. Et j'ai fait partie d'un big band après être sorti du conservatoire, le Blue Big Band, donc mes armes dans le jazz. Paradoxalement, ça n'est pas une culture qui a marqué mon parcours. En revanche, immédiatement, une certaine frustration dans le répertoire est apparue.
France Musique, les grands entretiens de Claude Delangle.
Donc vous étudiez à Lyon jusqu'au moment où il va falloir venir à Paris. Comment ça s'est fait, le passage de l'un à l'autre?
Le passage de l'un à l'autre s'est fait naturellement par le conservatoire au sortant de Paris. Mmh. Pour ce qui me concerne, c'était un peu particulier parce que j'ai passé au fond peu de temps au conservatoire de Lyon. Quand j'ai dû passer mon prix quand j'avais 15 ans. Tout de suite, on m'a dit, mais il faut que tu passes le concours d'entrée. Moi, j'avais pas trop envie parce que je trouvais que j'étais trop jeune. Aller à Paris, ça me faisait un peu peur. Et puis, je voulais absolument avoir mon bac, avoir un parcours scolaire parce que j'envisageais des études universitaires autres. Je voyais pas l'intérêt d'être un jeune virtuose du saxophone à 14 ans à Paris ou 15 ans. Et donc, je passais le concours régulièrement, mais je ne présentais que la première épreuve que je réussissais régulièrement. Je ne passais pas aux grandes dames de mes amis pianistes ou violonistes. Puis, à 18 ans, j'ai mon bac en poche. J'ai présenté également le second tour.
Donc vous vous présentez après le bac chez le... Il devait y avoir qu'un seul professeur de saxophone à l'époque au Conservatoire de Paris, Daniel Desfayet.
C'est cela.
Qui était lui-même un élève de Marcel Mule.
Exactement.
Est-ce que vous avez rencontré Marcel Mule? Je crois qu'il est mort à 100 ans. Enfin, c'était un...
Oui, j'ai pris des cours privés avec Marcel Mule parce que c'était vraiment une grande figure. Et je me souviens de lui étant enfant, en fin de première année d'études. Je ne connaissais pas son nom. Je me souviens juste d'un grand bonhomme qui avait des grandes oreilles et qui m'avait impressionné, qui m'avait dit « Jeune homme, vous avez une très belle sonorité ». Bon, voilà, il paraît que c'était important qu'il m'ait dit ça. Et quand j'avais 18-20 ans, j'ai pris quelques cours à Paris ou dans sa villa à Sanary-sur-Mer. C'était intéressant parce que probablement c'est quelque chose qui inconsciemment, j'ai pas volontairement, mais inconsciemment gardé, cette clarté à la française, cette diction, cette clarté et technique et instrumentale. Cette diction, je le dirais plutôt de cette manière-là, typiquement française.
Et donc, vous vous présentez chez Daniel Defayet. Quel genre de personnage était-il ?
Daniel Defayet, c'était vraiment l'élève de Marcel Mull. Il l'appelait Mull, c'était le patron, voilà. Il avait dit qu'on respirait là, la respiration devait être là, qu'on ne jouait pas le suraigu dans le concerto de Jacques Ibert, etc. Enfin, il avait un modèle et il le suivait consciencieusement et de manière, il ne faut pas oublier qu'il était appelé régulièrement à jouer les solos de saxophone avec l'orchestre de Berlin par Karajan lui-même, qui n'hésita pas un jour à fréter un vol privé pour venir chercher Defayet, pour avoir son boléro avec Defayet. C'était un autre monde.
Les enregistrements de Karajan, l'Arlésienne, les solos, c'est lui la
plupart
du temps.
C'est toujours Defayet.
Et vous sentiez qu'il y avait quelque chose à changer déjà sous sa classe? Il ne faisait pas forcément venir les compositeurs, la création n'était pas...
Ah non, ça peut être pas du tout. Enfin, comment dire, c'est mon professeur, donc j'ai beaucoup de respect pour mes professeurs et je ne nie pas ce que j'ai appris en matière de phrasé, en matière d'accent et de désinence et de bel canto, je dirais. C'est vrai, j'étais heureux de travailler des études, j'étais heureux de travailler du répertoire. Quand la première fois je lui ai apporté, par exemple, la sonate de Denisov, je l'ai joué, c'est une sonate de 12 minutes que j'avais montée en une semaine, tant bien que mal. Après les 12 minutes de jeu, ou 13 ou 14, parce que je ne sais pas si j'ai vraiment joué dans le tempo, Daniel Defayet m'a dit « Et ensuite, qu'avez-vous préparé, cher ami ?» C'est vrai que dans une semaine, ça faisait déjà beaucoup pour moi. Et voilà, le cours s'est arrêté là. Évidemment, la création ne le motivait pas du tout. Et plus que la création, c'était, je dirais que c'est relativement grave, c'est qu'en fait, après Bartok, on n'avait rien fait de correct, en fait. C'était,
mais c'est bizarre, la musique était terminée. Il jouait d'un instrument qui avait un siècle et demi d'existence seulement, en plus.
Oui, mais à cette époque-là, il faut voir ce qu'était le métier d'un saxophoniste. Pour lui, comme j'ai entendu pendant 2 années, le métier est fichu. C'est-à-dire, le métier, c'était quoi? Mais c'était en fait la variété, c'était les studios, c'était faire des solos à l'opéra avec les orchestres, l'orchestre à Radio France. C'était un certain métier, c'était jouer peut-être dans des opérettes, c'était peut-être des musiques pour la télévision. Il y avait tout un milieu comme ça, parisien. Et d'ailleurs, Mull lui-même disait qu'il avait joué du jazz, mais il n'était pas jazzman. Il jouait dans des musiques où, effectivement, influencé par le jazz. Donc, voilà, il y avait tout un milieu parisien qui, effectivement, aujourd'hui, quelques saxophonistes spécialisés jouent, très bons amis à moi, comme Patrick Bourgoin, qui fait une très belle carrière, jouait avec Eddie Mitchell et les plus grands chanteurs de notre répertoire de musique française. Voilà, mais c'est vraiment pas du tout ce type de carrière que je me préparais à faire. C'est pas ce que j'envisageais pour moi-même.
Quelles ont été les grandes rencontres au conservatoire? Vous gardez des bons souvenirs? C'était rue de Madrid à l'époque?
C'était rue de Madrid et c'était à la fois extraordinaire et à la fois austère. Austère par le fait que, comme je l'ai dit et comme je le répète, on était un peu les parias du conservatoire. Il faut pas les instruments avant, on les supportait. Alors le saxophone, je sais pas, ça jouait fort, ça gênait les voisins, il fallait pas ouvrir les fenêtres. On participait à rien dans la maison. Il faut pas oublier que ce qu'on appelait le troisième cycle ou le perfectionnement n'était pas accessible, ne nous était pas accessible. On n'avait pas droit à tout. Enfin, bon, quand on jouait la création du monde, on faisait appel à un saxophone, fallait bien quand même. Mais d'ailleurs, Boulez m'a rappelé une fois qu'il ne savait pas, quand il était élève lui-même, qu'il y avait une classe de saxophone au conservatoire. Le grand Marcel, lui, l'enseignant au conservatoire, Boulez passait au conservatoire, il ne savait pas qu'il y avait une classe de saxophone, quand même extraordinaire. Alors ça, c'est l'austérité. Et puis, d'autre part, c'est l'amitié avec Bavi, avec Philippe Hurel, avec Le Rouge, je ne connaissais pas à cette époque-là, il était un tout petit peu plus jeune que moi, on n'était pas tout à fait ensemble au conservatoire, mais c'est ces compositeurs dont j'allais écouter les concerts Griset, j'allais écouter Tempus Ex Machina, Sal Berlioz, par les percussions de Strasbourg. Je sentais que la musique, elle était là, quoi. Et j'avais, ou Denis Dufour, qui m'avait écrit la première pièce qu'on avait d'ailleurs jouée ici au GRM, ou en tout cas créé la musique de la bande, comme on disait à l'époque, était faite ici au GRM. Donc voilà, j'avais un appétit pour des choses qui n'étaient pas trop à la mode dans ma classe et qui étaient pas défendues non plus, mais disons, bon, oui, c'était pas la mode. Je veux pas ça.
Et le directeur à l'époque du conservatoire,
Raymond Galland-Montbrun, oui, voilà, qui avait écrit une charmante pièce pour saxophone, pièce musicale d'étude, très très belle pièce que mon professeur jouait magnifiquement. Voilà, violoniste, voilà.
Il y avait la figure de Messiaen, importante.
Ah oui, oui, Messiaen était un... Oui, mais bon, mais le rapport de Messiaen avec le saxophone étant ce qu'il a été, évidemment, l'instrument qui était le symbole de la séduction ne convenait pas au maître de la rue de Madrid.
Et donc, principalement, un répertoire de pièces de concours, les pièces de 100 camps, peut-être.
Pièces de 100 camps, des enclos, un répertoire Jean Français, Ida Gotkovski,
Fernande de
Cruc, oui, encore non, on ne jouait pas parce que cette pièce a été redécouverte par nos anciens élèves. Il y a des pièces qui étaient oubliées. Par exemple, on ne jouait pas du tout la légende de Florent Schmitt, on jouait très peu, même la Rhapsodie de Debussy, il n'y avait pas grand-chose à faire dedans, donc c'était. Je ne jouais pas trop. Villa-Lobos, on ne jouait pas parce que le soprano n'avait pas voix au chapitre, parce que c'était un instrument de quatuor, on ne joue pas d'œuvres solo avec d'autres instruments que l'alto. C'était très particulier. Moi, j'ai découvert finalement les pièces les plus intéressantes du répertoire, étant déjà la légende de Caplet, par exemple, que j'ai trouvé à la Bibliothèque nationale. On n'y avait pas accès, c'était effectivement limité à un répertoire d'école. Thank you.
avec la légende pour saxophone et orchestre de Florent Schmitt que se termine cette première rencontre avec Claude Delangle que nous retrouverons demain. Gilles Blanchard a réalisé cette émission avec Tahar Bouklifa à la prise de son, Cédric Chatelus au mixage et Flora Sternadel à la préparation. Toutes les références sont sur le site des Grands Entretiens que vous pouvez réécouter et podcaster.
À réécouter sur francemusique.fr.